CJSO 101.7 avec Luc Denoncourt. À deux, c'est mieux.
Bon vendredi tout le monde, bienvenue à deux, c'est mieux en direct de la Bouffetify. C'est un abonné à l'émission. Ouais. Étienne Drapeau, salut.
Salut, content de te voir.
Ben oui, moi aussi.
Toujours un plaisir.
Merci d'être là.
On est comme en famille. Là, en plus, j'ai rencontré ton grand garçon qui est beau comme un cœur, parabain avec son veston. J'aime ça venir te voir. Je me sens en famille ici, puis c'est le cas de le dire.
Étienne, nouveau livre. C'est pour ça que tu viens nous voir souvent. C'est parce que des fois, c'est des disques, des fois, c'est des livres.
Oui, oui.
La genèse de ce livre-là est arrivée comment? Est-ce que le thème était clair dès le départ ou c'est arrivé au fil de l'écriture?
Très bonne question. La genèse n'est pas arrivée au fil de l'écriture. Il y avait un questionnement très précis au début. J'ai écrit pendant la pandémie un livre sur le bonheur. Ouais. Où là, c'était toute mon expérience de vie, toute ma philosophie sur la vie, le bonheur, tout ce qui m'a permis de faire le choix du bonheur, de vivre dans la gratitude, dans la pensée positive. Et puis là, il y a eu 2-3 ans dans ma vie que c'est comme si la vie avait fait comme « Ah ouais, monsieur bonheur, le bonheur, c'est un choix. Attends un peu, on va t'essayer, voir si ça marche, les théories. » Puis là, il y a beaucoup de maladies dans ma famille. Il y a eu ma conjointe qui était malade, il y a eu l'Alzheimer qui est entré dans notre vie, il y a eu toutes sortes de périodes de deuil et puis je comprenais plus rien à la vie. C'était comme, je me posais toutes sortes de questions et là, je me suis mis à écrire et la différence entre le premier livre et le deuxième, c'est que le premier, je savais exactement tout ce que j'avais à écrire avant alors que le deuxième, au début de chaque chapitre, je me posais une question et j'essayais d'y répondre à travers mon écriture. Donc, des questions sur le deuil, sur la maladie, sur pourquoi les choses arrivent, sur la souffrance, sur le sens de la vie. Ça m'a permis de faire une belle introspection, puis j'irai pas jusqu'à dire ma propre thérapie, mais ça a vraiment fait du bien d'écrire ce livre-là.
Mais un peu quand même, parce que tu vivais des affaires difficiles, autant avec ta conjointe qu'avec quelqu'un proche de toi qui avait l'Alzheimer. Tu avais même écrit une chanson sur ce sujet-là, donc tu étais en plein là-dedans. Et d'écrire, c'est libérateur, là. Je veux dire, tu dis peut-être pas ma thérapie, mais quand même, il y a un bout qui est sorti de toi, puis t'as pu éliminer ça de toi un peu.
Oui, puis t'arrives, écrire, c'est comme parler, c'est comme réfléchir. Et tu sais qu'il y a quelqu'un qui va te lire, donc il faut que ce que tu écrives fasse du sens. Ouais. Fait que tu cherches, tu poses une question et tu y réponds toi-même. Puis j'ai fait toutes sortes de constatations à un moment donné c'est devenu mon premier chapitre, mon intro, mais à force d'écrire, j'ai fait... Hey mon Dieu, je viens de comprendre quelque chose. T'sais. Toute ma vie, des fois, je me suis demandé ou quand ma conjointe était très malade, tu regardes vers le ciel, tu fais asti, pourquoi ça arrive, c'est quoi ça? Puis tu poses des questions à la vie. Puis à un moment donné, j'ai fait oh, attends un peu, j'avais jamais compris ça en 45 ans de vie. Faut arrêter de quémander le sens de la vie. Faut comprendre que c'est la vie qui te pose des questions. La vie te donnera jamais les réponses. La vie, c'est le test lui-même. C'est à toi à trouver du sens. C'est à toi à trouver un sens à tout ce qui t'arrive parce que la vie te donne pas les réponses. Fait qu'il y a eu beaucoup de réflexions, de questionnements comme ça qui me sont arrivés en cours d'écriture. Puis je me suis dit, probablement que tout ce que j'ai vécu, toutes les épreuves, toute la souffrance, toute la douleur, si je réussis à mettre ça dans un livre, toutes mes pistes de solutions, toutes mes réponses à ces questions-là, si moi, ça m'a aidé, ça peut aider quelqu'un. Fait que j'ai mis ça dans un livre, je me suis dit, s'il y a des gens qui passent à travers une période de deuil, à travers la maladie, à travers l'Alzheimer, à travers une rupture, à travers des difficultés professionnelles ou amoureuses, ou peu importe, des grosses périodes difficiles dans leur vie, bien, je pense, la seule prétention que j'ai, c'est que ce livre-là, je pense qu'il peut aider des gens à passer à travers ces choses-là.
Est-ce que c'est le bout dans ta vie où ça a été le plus tough d'être dans le bonheur, justement? Parce que tout arrive en même temps.
Oui, fort probablement que là, tu te fais vraiment tester. Puis la phrase préférée que j'ai écrite dans mon premier livre, « Faire le choix du bonheur », c'est une phrase qui dit « Le bonheur, c'est pas le sourire que l'on expose quand tout est rose. C'est celui qu'on porte au fond du cœur dans la noirceur. » Parce que, tu sais, c'est facile d'être heureux quand tout va bien, quand tu as le succès, l'amour, l'abondance. Pas besoin de penser à ça, sourire, puis d'être heureux, puis le bonheur, t'es deux pieds dedans. C'est quand la vie devient difficile. C'est là que tu as besoin de puiser à l'intérieur de toi pour essayer de continuer à sourire à la vie. Moi, je dis toujours, la vie est belle, mais il faut que tu sois capable de te dire, la vie est belle, même dans tes moments les plus difficiles. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. Et je le dis souvent, que l'acceptation de la souffrance, de la douleur, des épreuves, pour moi, c'est la plus grande forme de courage. Quand tu as été capable d'accepter que la vie est la souffrance, que la souffrance, elle est inévitable, elle fait partie du cheminement pour apprendre, pour grandir. À ce moment-là, tu n'as plus peur de la vague qui s'en vient. Tu sais, je fais une analogie dans mon livre où je dis, le marin qui est pris en mer en tempête, il voit la vague qui va le détruire, tu peux aller nulle part, ni à gauche ni à droite, il faut que tu l'affrontes. Fait que la douleur, l'épreuve, elle arrive dans ta vie, il faut que tu l'affrontes. Elle peut te détruire, mais elle peut t'amener plus loin. Donc, quand tu as accepté ça, après, prêt, t'es mieux préparé, t'es prêt à composer avec la vague ou avec l'épreuve qui s'en vient dans ta vie, puis c'est plus facile d'accepter puis de passer à travers les choses. T'sais, le territoire qui était inconnu, qui était inexploré, t'as passé par là. Fait que t'as fait une petite map avec tes larmes, avec tes peines, avec ce que t'as vécu. T'sais, l'obscurité, tout d'un coup, le territoire inexploré, là, tout d'un coup, tu l'as fait ta carte. Fait que t'as passé par là. Fait que quand tu reviens dans cet endroit-là, tu fais attends un peu, j'ai déjà passé par là, j'en suis sorti plus fort, je sais que je vais être capable.
Est-ce que ça a été le plus dur à écrire des deux? Parce que c'est se montrer vulnérable totalement. Là. C'est aller gratter à des places qu'on a de la misère à faire dans la vie. Puis là, de le faire en public, c'est pire.
Ça a été la chose qui a été la plus dure à faire dans ma vie, l'écriture de ce livre-là. Et c'est conséquemment la chose dont je suis le plus fier.
Ben oui.
De mes 9 albums, de mes 2 livres, c'est le projet dont je suis le plus fier. Et ce qui prouve que t'sais, y a des belles choses qui sortent de des moments difficiles, tu sais. Fait que ça, c'est un beau testament de ça.
Tu t'es senti comment à la fin? Est-ce que tu te sentais libéré de ça?
C'est drôle parce que j'ai jamais parlé beaucoup de ma relation avec ma conjointe publiquement. Là. Peut-être parce que là, je suis en famille, puis là, avec toi, Luc, on se connaît depuis tellement longtemps, puis ta famille est là. Mais c'est drôle parce que j'ai écrit ce livre-là, puis ma conjointe et moi, on était en contact malgré que la vie nous envoyait un petit test à un certain moment. Puis quand on est revenu un petit peu plus en contact, puis que l'on se voyait, j'étais dans les derniers chapitres. J'étais tellement revenu dans un bonheur intense, j'étais rendu au 19e chapitre. J'étais plus capable d'écrire. J'étais tellement revenu heureux. Ça allait tellement bien dans ma vie. Puis là, j'étais en train de finir l'écriture. Je voulais écrire 25 000 mots comme mon premier. Puis là, j'étais rendu à 19 000 mots. Puis de peine et de misère, j'ai dit, je vais écrire un 20e chapitre. Puis je pense que je vais écrire ma conclusion. Parce que je dis, là, je suis plus dans souffrance. Je suis plus là-dedans. Fait que j'étais plus capable d'écrire sur ces thèmes-là. Alors, j'avais fait le tour. Le livre a terminé à 20 chapitres avec 20 000 mots.
Et de toute façon, on n'a plus envie d'y replonger quand on en est sorti en même temps.
On en est sorti, puis j'en suis sorti, ça serait peut-être un cliché de dire j'en suis sorti plus fort, mais j'en suis sorti mieux outillé. Puis je pense que j'avais pas compris le rôle de la douleur, de la souffrance, des épreuves dans la vie. J'étais beaucoup dans le questionnement de pourquoi ça m'arrive à moi. Puis j'ai compris que ça arrive pas plus à toi qu'à un autre, ça arrive à tout le monde. Tout le monde a ses batailles, tout le monde a ses combats, tout le monde a ses épreuves. C'est inévitable. Fait quand tu comprends ça, puis comme je te disais tantôt, quand tu en fais l'acceptation, on dirait que maintenant, il n'y a plus rien qui me fait peur. Il n'y a plus rien qui me dérange, puis c'est à 45 ans que j'ai compris ça. Fait que, tu sais, ma conjointe et moi, maintenant, on est fort, on est comme ça, puis on est comme, OK, bring it on, là. S'il y a d'autres choses qui s'en viennent, on est là, puis on est prêt.
Beau de voir ta blonde te regarder pendant que la tune jouait.
Ben, évidemment, c'est sa chanson. Veux-tu faire ta vie avec moi? Une belle chanson que j'ai écrite justement dans une période où ma conjointe avait des petits problèmes de santé, si on peut dire comme ça. Puis je me souviens que j'ai écrit cette chanson-là quand elle était à l'hôpital. J'étais revenu de l'hôpital un soir, puis j'avais de la peine, puis je pleurais. J'avais pris ma guitare, puis je m'étais mis à composer cette chanson-là, puis à l'écrire. Puis, tu sais, cette chanson-là est belle. En tout cas, pour moi, c'est ma plus belle chanson d'amour. Tu sais, j'en ai écrit quelques-unes.
Oui, oui.
C'était ma femme, t'es la plus belle. Jamais dit à personne. J'ai écrit une couple de belles chansons, mais celle-là est la plus vraie, la plus profonde. Tu sais, la chanson dit « Il y aura des épreuves, des combats, des jours de doute, il y en aura », tu sais. Mais tant que je te serrerai dans mes bras, jamais tu douteras de moi. T'sais, c'est comme l'amour, la vie, les difficultés, c'est des hauts, c'est des bas. Puis il y a des jours de. Je dirais des journées de tempête où on craindra que tout s'arrête. Mais quand je regarderai l'horizon, je verrai que ton sourire est ton nom. T'sais. Donc la vie, elle t'amène des tempêtes, des choses difficiles, mais en bout de ligne, l'amour triomphe. C'est beau ça, hein? Vous pouvez m'applaudir. Merci tout le monde.
Est-ce qu'elle a pris un autre sens maintenant? Cette chanson-là, parce que là, cette semaine, il y a un clip qui a été dévoilé ensemble. Vous êtes ensemble dans le clip.
On a gardé
T'as
ça.
T'as comme secret. Annoncé officiellement que vous étiez revenus ensemble avec ce clip-là.
En fait, tu vois, puis même là, je te dirais que les 3 minutes de conversation qu'on a eues, là, toi puis moi, aujourd'hui, là, c'est le plus que j'ai jamais parlé de toute ma vie des 5-6 ans qu'on est ensemble. J'en ai jamais parlé. T'sais, j'ai comme une promiscuité à parler de ça. Peut-être parce qu'on se connaît depuis longtemps, puis je me sens, tu sais, comme ici, je le dis en blague, mais on est comme un peu en famille. C'est le fun, mais j'en parle pas beaucoup. Puis on voulait immortaliser cette chanson-là, ce moment-là. Puis à un moment donné, on a dit, on a un bon contact en République dominicaine qui fait des vidéos absolument extraordinaires.
OK, le contact fait des clips.
Oui, ben c'est ça, cette personne-là, là-bas, qui est un producteur de vidéoclips là-bas, qui travaille avec le plus grand nom de la musique latine. Puis on s'est dit, pourquoi pas profiter d'un endroit paradisiaque, Santo Domingo, la zone coloniale, qui est la plus vieille ville des Amériques, la première découverte par Christophe Colomb, je me rappelle plus en quelle année, dans les années fin 1400, avec l'architecture coloniale espagnole. Mm-hmm. Donc, c'est un clip qui est paradisiaque. Puis on s'est dit, ça va être un beau souvenir pour nous. Puis, tu sais, j'avais pas envie de sortir dans les médias, puis de faire une espèce de déclaration. Ah, hey, on est revenu. Tu sais, j'ai dit, on va sortir le clip. Puis je pense que les gens vont faire un plus un, là. C'est assez clair. Sinon, on était assez proches dans le clip si les gens vont le voir sur YouTube. Belle réaction en 4 jours. On a 15 000 visionnements du vidéoclip. Donc, cette chanson-là prend un tout autre sens. Aujourd'hui, c'est la chanson pour moi à chaque spectacle que je chante, qui me donne le plus d'émotions. Jamais je suis capable de... Tu sais, t'es ma femme, t'es la plus belle, c'est peut-être ma chanson la plus marquante, mais j'avais personne dans ma vie quand je l'ai écrite.
Ouais.
Les gens, je sais pas s'ils le savent ou ils le savent pas, mais je m'imaginais l'amour idéal, je l'idéalisais, tu sais. Il y a bien des chansons comme ça où les femmes que j'ai aimées, que j'avais écrites, où je demande pardon à toutes les femmes que j'ai aimées pour pas avoir été un homme assez fort pour savoir comment aimer correctement. Je pense que je l'avais écrit suite à une rupture avec une fille avec qui je sortais à l'époque, tu sais. Mais aujourd'hui, je la chante, puis ah, bon, ça fait tellement longtemps que ça vient plus me chercher, mais... Non, ouais. Mais la chanson sur l'Alzheimer, je serai là. Et la chanson pour ma conjointe, c'est les deux chansons qu'à chaque fois que je les chante, je suis incapable de rester insensible.
Est-ce que ces années-là, face à l'Alzheimer, ça t'a appris plein de choses sur toi? Parce que c'est une maladie complexe qui a des étapes à l'opposé une des autres. On ne sait jamais l'ordre, on ne sait jamais la vitesse. On ne sait rien, en fait.
As-tu
trouvé ça dur?
C'est probablement la chose la plus difficile qu'on puisse avoir à vivre dans sa vie. Tu sais, dans la vie, je dis souvent, c'est dur de comparer les maladies. Tu sais, on peut pas dire, ah, cette maladie-là est tellement mieux ou tellement pire, mais on dirait que l'Alzheimer, c'est la pire. Il faut que tu fasses le deuil d'une personne que tu aimes, mais qui est encore là.
Ouais.
Tu sais, c'est pas comme la personne est partie, elle est là, elle perd toutes ses facultés, ses moyens, le langage, la mémoire. C'est extrêmement difficile à vivre, tu sais. Ça m'a permis les dernières années de préciser ce que moi j'appelle ma mission de vie. Je pense que tout le monde dans la vie doit avoir ce qu'on appelle une mission de vie. Parce qu'à un moment donné, tu as tellement de décisions à prendre, il y a tellement de choses qui se passent. Puis moi, j'ai décidé que dans ma vie, tout ce que j'avais envie de faire à travers mes chansons, à travers mes albums, à travers mes conférences, à travers mes livres, c'est de faire en sorte que le monde dans lequel je vis humblement, grâce à mon petit apport, soit toujours un petit peu plus beau. Puis de toujours faire du bien aux gens et de faire en sorte que la vie de tous les gens que je rencontre à tous les jours dans ma vie soit un petit peu plus belle. Fait que, tu sais, je pense que les dernières années, ça a été tellement difficile, mais quand je me raccroche à dire, en bout de ligne, même si on a un proche qui est malade puis qu'on le perd, à chaque moment qu'on est avec lui, qu'on le sort, qu'on lui fait vivre encore des beaux moments, même si la personne n'est plus beaucoup là, ben, tout est en ligne avec ma mission de vie. Fait qu'après ça, je me dis, quand, mettons, t'as des moments plus difficiles, ta dernière chanson, joue-moi à radio, t'as moins de spectacles, tu sais, je me dis, moi, tout ce que je fais dans ma vie, à tous les jours, je me réveille pour essayer de faire des belles choses, puis après ça, le reste, ça m'appartient pas. Fait que mon bonheur, il dépend de moi, parce que moi...
Oui, c'est ça. Si t'attends tout le temps après quelqu'un ou après quelque chose...
Si t'attends que, j'aimerais tellement ça que les Francofolies me bookent l'année prochaine, ils m'ont pas booké, tu sais, ben moi, j'attends pas après personne. C'est sûr que c'est le fun quand t'as les résultats, quand tu gagnes un prix ou que...
Oui, mais t'es plus content quand t'as pas d'attente. Tu l'as pas vu venir.
Non, t'as pas d'attente, puis ton bonheur, il est intérieur et non extérieur. Fait que moi, si je me lève à tous les jours en disant, moi, je veux faire des belles choses, puis à tous les jours, tout ce que je fais est aligné pour faire des belles choses, pour faire une différence dans la vie puis dans la vie des gens, ça dépend plus de combien de spectacles que je fais, ça dépend plus de mon succès, ça dépend plus d'un numéro 1 radio, mon bonheur, il est intérieur. Après, quand ça arrive, c'est un bonus. Puis de toute façon, si je travaille fort, si je fais tout ce que j'ai à faire, ben après ça, j'ai pas le contrôle. Fait que ça a l'air cliché de dire ça, mais j'essaye de mettre mon focus juste sur ce que je peux contrôler. Puis le reste, ben il arrivera ce qui arrivera.
Ton premier livre a énormément vendu. Ça a été un beau succès. C'était une nouvelle facette dans ta vie, l'écriture. Ben pas d'autre chose que des chansons. Est-ce que ça t'a pris par surprise, le succès du livre? Parce qu'on parlait d'attente, là. C'est dur d'avoir une attente quand on n'a jamais fait ça. On l'espère, mais on le sait pas.
C'est une bonne question. J'avais pas d'attente au niveau des ventes.
Ouais.
Dans le sens que je le savais pas. J'avais un feeling que ça allait fonctionner parce que je me disais, c'est toute ma philosophie de vie, c'est tout ce que je suis. On a vendu 7 000 livres de façon complètement indépendante. J'avais une petite appréhension, c'était la réaction des gens. Et je me disais, est-ce que les gens vont dire, hey, pour qui se prend, là, lui, Étienne Drapeau, là, un livre de développement personnel ou ces trucs et conseils pratiques pour être heureux pour le bonheur? Qu'est-ce qu'il va m'apprendre, lui? Qu'est-ce qu'il sait plus que moi? Puis j'ai pas senti ça des gens. Puis de toute façon, je le dis souvent, je suis pas meilleur ni moins bon que ce soit.
Ben, tu le disais d'ailleurs en entrevue. Ben, je vais pas avoir l'air du gars qui a tout compris. Là. J'ai pas tout compris. Là.
Bon, là, aujourd'hui, j'ai tout compris.
Ouais, c'est ça.
Là. Là, aujourd'hui, j'étais un grand sage. C'est autre chose. Là. Non, là, je blague, mais c'est ça. C'est juste que j'ai mis mes réflexions comme ça, puis j'ai eu des réponses des gens, même avec le premier livre, à quel point ton livre m'a fait du bien, c'est mon livre de chevet. Il y a une madame, elle a recommandé 10 pour sa famille. On a envoyé une boîte. Elle dit, j'en veux un pour mon mari, pour mes trois sœurs, pour mes enfants, mes petits-enfants. Elle les a envoyés à tout le monde. Il y a une madame qui m'a écrit de mon deuxième livre. Je l'ai acheté un à librairie. Je t'en commande 3. J'en veux un pour ma meilleure amie, un pour ma sœur. Faut qu'il y ait du monde qui lise ça. Ça va faire du bien. Fait que, tu sais, ça, c'est ma paye. Fait qu'après, mettons le deuxième, j'en vendrai 2 000 ou 3 000 ou 5 000 ou 7 000, j'en vendrai 500 si ça a fait une différence dans la vie de 200 personnes, mettons. Bien, tu sais, c'est ça, comme quand je te disais que mon bonheur, il dépend plus des chiffres, des résultats. C'est peut-être ça là, que les dernières années m'ont appris avec ce livre-là, avec ces deux livres-là aussi.
Étienne, ça va faire 20 ans qu'on se connaît, parce que l'année prochaine, ça va faire 20 ans de carrière.
Oui.
Star Academy 2004, joueur de hockey, qui aspirait à aller jouer dans la Ligue nationale, qui avait été repêché par le Canadien. 2004, c'est un changement complètement de carrière.
Il n'y a pas grand-chose de plus drastique que de passer d'un joueur de hockey à un chanteur, auteur, compositeur qui joue du piano, de la guitare, qui chante des chansons d'amour, tu sais. Entre manger des coups de bâton, donner des crush checks, puis te battre, puis te faire rentrer dans les bandes, puis le lendemain, tu chantes « T'es ma femme, t'es la plus belle ». Écoute, la seule affaire qui a resté, c'est que j'ai passé d'un bâton de bois à un autre.
Ouais.
Fait que j'ai passé du bâton de hockey à une guitare. Fait qu'il y a quand même j'ai une petite
le bois est un peu plus gossé que la guitare, par exemple.
Ouais, il est un peu plus défini. Mais oui, ça a été tout un changement, tu sais. Fait que ça, je trouve ça le fun parce que ça montre aux gens que tu peux avoir des passions qui sont complètement à l'opposé. Tu sais, moi, toute ma vie, je ne pensais qu'être un joueur de hockey dans la Ligue nationale. À 15 ans, j'étais deuxième meilleur compteur de la Ligue Midget 3 en arrière de Daniel Brière qui a joué pour le Canadien. Daniel Brière était tout petit, 5 pieds 7. Moi, j'étais 6 pieds 1 à 15 ans. Donc, j'ai été le tout premier choix de la Ligue junior majeure du Québec. Puis à 18 ans, j'ai été le choix de 4e ronde du Canadien. J'ai joué un match hors concours. J'ai scompté un but pour le Canadien de Montréal dans un match hors concours contre les Rangers de New York. Ça, c'est mon plus haut fait d'armes. J'ai quand même joué un match hors concours dans la Ligue nationale. Après ça, j'ai joué 4 ans dans les rangs professionnels, mais j'ai eu beaucoup de blessures. Puis du jour au lendemain, j'ai tout abandonné. Moi, je dis la page, je ne l'ai pas tournée, je l'ai arrachée. J'ai dit, j'arrête tout ça, le hockey, c'est pas moi, je suis pas un joueur de hockey. C'était un monde qui était tough, j'en ai pas parlé beaucoup du hockey dans le temps. Tu sais, là, on a entendu toutes sortes d'affaires, mais moi, j'ai tout vu, tout vécu. Là. Je pourrais écrire un livre là-dessus, ça serait peut-être un livre à scandale, là, mais en tout cas, j'en ai vu des affaires et vécu dans le hockey. Puis un jour, j'ai dit, non, c'est pas moi, je suis pas un joueur de hockey, je suis pas dans cette mentalité-là. Tu sais, un peu comme je disais, je veux faire du bien, je veux toucher les gens, puis j'écrivais de la poésie, tout ça. Puis un jour, j'ai tout abandonné ça, j'étais allé auditionner à Star Academy. Et 20 ans plus tard, on se retrouve avec 9 albums. J'ai fait 9 albums en carrière, un album en espagnol, un album de Noël, une compilation, 2 livres, une comédie musicale. J'ai repris le rôle de Mario Pelcha dans Don Juan. J'ai chanté avec Linda Lemay à l'Olympia de Paris. Tu sais, j'ai vécu des affaires dans ma carrière. Là. C'est fou. Là. Je suis choyé. Puis d'être encore là après 20 ans, là, c'est un beau privilège.
Je me souviens, après Star Academy, quand tout s'est arrêté, on s'était parlé en entrevue, puis tu avais dit, je me suis retrouvé devant une page blanche. Mon agenda pour l'année qui vient était complètement vide. Était complètement vide. Puis on parlait d'attente tantôt. Tu as dit, je ne vais pas attendre après les gens pour qu'ils remplissent mon agenda. C'est à moi de me botter le cul, puis à le faire moi-même. Et tu l'as fait.
Hey, j'en reviens pas, tu te souviens de ça. Ça fait 20 ans que personne ne m'a ramené ça. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment vrai. Écoute, quand j'ai quitté Star Academy, puis j'ai quitté Production J, parce qu'à l'époque, j'étais sous contrat, je devais faire 5 albums avec eux autres. Puis moi, j'avais toutes mes chansons décrites. Puis j'ai dit, moi, je suis prêt à faire mes chansons. Puis là, ils ont écouté mes albums. Puis, Étienne, on peut pas faire l'album avec toi, on m'avait dit Production J à l'époque, parce que, tu sais, c'est pas mauvais ce que tu fais, mais t'as pas de hit dans tes chansons. Et à l'époque, dans mon démo d'une dizaine de chansons, la première tune c'était « Je l'ai jamais dit à personne » en guitare-voix. Pareil comme quand je l'ai lancé à la radio. Puis là, j'ai dit « Quoi? » J'ai dit « Vous pensez que je peux pas faire de hit? » J'ai dit « On va serrer la main, on n'est pas pire amis. » Je suis parti de bonne humeur, là, tu sais.
Oh, oui,
j'ai dit « Je vais produire moi-même mes affaires. » Fait que pendant 2 ans, j'ai fait la tournée Étienne et ses invités. Là, j'ai ramassé des gens de Star Academy, j'ai payé mon premier album, j'ai fondé ma propre compagnie de disques il y a 20 ans, il n'y a personne qui faisait ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autoproducteurs. Ouais. Puis un an après, ma chanson, je ne l'ai jamais dit à personne, est en nomination comme chanson de l'année à la 10. Puis je me rappelle, j'ai fait une tournée de tous les musicaux. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des... Et personne ne voulait me jouer à la radio. Les académiciens, ils étaient tannés, ils en avaient, ils sortaient tous des albums. Je n'étais pas joué à la radio. Personne ne voulait m'avoir en spectacle. J'ai organisé une tournée de spectacle dans les musicaux, dans les centres d'achat. J'avais un petit stage en milieu du centre d'achat. J'ai travaillé fort, j'ai bûché, j'ai dit, moi, je vais faire ma place. Puis de fil en aiguille à produire mes propres affaires. J'ai produit tous mes albums, toutes mes tournées en carrière. Je suis ma propre maison d'édition. Quand ça a été le temps de faire mon livre, j'ai fondé ma propre maison d'édition. Fait que j'ai pas attendu après personne. T'sais, Star Academy, je dis souvent, m'a entrouvert la porte du show business. Après, moi, je l'ai défoncé à grands coups de pied.
Ça t'a permis d'avoir un nom, en fait. Star Academy. Ça a fait circuler un nom. Après, c'est à toi de voir ce que tu fais avec.
Exact. Puis je pense que le temps a démontré qu'il y a eu 7 éditions de Star Academy, 12 de la voix, même plusieurs gagnants qui ont disparu presque aussi vite que ça. C'est pas pour être méchant, là, mais qui sont disparus rapidement. Star Academy ou la voix t'apportera pas une carrière. C'est ce que tu vas faire après. C'est les chansons que tu vas écrire, que tu vas composer. C'est comment tu vas travailler. Des gens qui ont du talent au Québec, là, des bons chanteurs, des bonnes chanteuses, il y en a. Ceux qui durent, ceux qui restent, ceux qui sont là, c'est ceux qui travaillent fort, c'est ceux qui sont passionnés, déterminés, puis ceux qui ont vraiment à cœur de faire ce métier-là pour les bonnes raisons. Parce qu'avoir un hit, avoir un succès, avoir un album, je pense que c'est relativement facile, mais de durer dans ce métier-là, c'est ce qui est le plus dur, je pense.
Et là, tu pars en spectacle-conférence pour souligner ces 20 ans-là. Tu vas être à Sorel, d'ailleurs, au mois d'avril.
Oui, hey, je suis content que tu me le dises, parce que j'étais parti regarder sur mon téléphone, parce que j'oublie toujours.
Le 5 avril,
on est à Sorel. Donc, voilà. Allez tout acheter vos billets pour ce que j'appelle ma conférence musicale. C'est un nouveau concept, puis je pense qu'il n'y a aucun artiste qui a jamais fait ça. C'est que c'est pas un show de musique, c'est pas une conférence, c'est une conférence musicale. Avant, je faisais des conférences, je faisais juste parler, je faisais la musique, je faisais juste jouer la musique, et là, j'ai décidé de mélanger les deux. Fait que j'ai un micro casque, j'ai un micro sans fil, j'arrive, je commence le spectacle, je fais une ou deux chansons. Là, je me mets à raconter mes histoires, parler de ma philosophie de vie, du bonheur, je parle des épreuves, de la souffrance, de ce que j'ai vécu. Puis là, à un moment donné, je raconte l'histoire de comment j'ai écrit ma chanson pour ma conjointe, puis là, ben, je prends ma guitare et je la chante. Puis là, je me promène un peu comme les gens sont assis, là. Puis là, avec ma guitare, ben, je resterai pas ici, là. Je m'en vais dans la salle. Puis là, des fois, je m'assois à côté de quelqu'un, puis j'y chante la chanson en le regardant dans les yeux à 2 pouces du visage. Une affaire que j'ai décidé de faire aussi, c'est quand la porte va ouvrir à 7h, moi, je suis à la porte. J'ai décidé que je vais attendre les gens qui arrivent et je vais serrer la main à tout le monde qui arrive. Fait quand, moi, le 20 ans, le 25 ans, quand j'aimais Lynn Delemay ou Mario Pelcha, j'aurais capoté. Arrivé dans une salle de spectacle, puis à la porte, c'est Mario Pelcha qui t'attend. « Bonjour, salut, mon cher ami. » J'essaie d'imiter Mario Pelcha, mais je suis pas bon. Mais tu sais, puis j'aurais trippé. Fait que moi, je veux vraiment que les gens se sentent comme chez eux. Ça va être des petites salles intimes. Il n'y aura aucune distance entre moi et les gens. Fait qu'on va passer comme ça une ou deux chansons dans mes plus connues. Je vais raconter quelques histoires. Je reviens avec une ou deux chansons. J'image ma conférence. Fait que c'est un nouveau concept, nouvelle façon de faire les choses qui, je pense, est fort intéressante puis amène une autre dynamique.
Donc, un choix de salle qui est fait en conséquence, parce qu'il y a des salles que tu peux pas faire ce genre de show-là.
Ça va être des salles.
Faut que ce soit intime.
Faut que ce soit très intime. Il n'y aura pas de fla-fla, il n'y aura pas de grand décor, il n'y aura pas de grand éclairage. Puis j'aime ça, je veux voir les gens, je veux les regarder dans les yeux. Puis quand tu parles, quand tu as ton micro-casque et que tu parles aux gens, il y a comme un dialogue, il y a un transfert d'énergie. Même si c'est toi qui parles, puis c'est pas les gens qui parlent, il y a quand même un dialogue. Mettons que je me mets à parler mes histoires, puis là, je vois les gens, là, je les vois dans les yeux. Là. C'est pas pareil. Mettons que je raconte une histoire, puis je vous regarde, vous, madame. Là, t'sais, là, puis là, je jase. Là. Même si c'est moi qui parle, on va jaser. Je vais vous dire, moi, là, j'ai vécu ça. Hein. Avez-vous déjà vécu ça, vous, madame? Puis là, vous allez me regarder, vous allez me faire comme vous faites, là, oui, non. Des fois, les gens me répondent quelque chose, j'embarque là-dessus. T'sais. Fait que c'est pas pareil comme si je m'installe au piano. Puis je vous chante ma chanson, je peux vous regarder d'un coup d'œil, mais là, il y a vraiment quelque chose de plus profond, de plus vrai, je trouve, qui va toucher et chercher les gens encore plus profondément que juste la chanson.
Tu es un des porte-parole de la campagne de sensibilisation d'Hommes Québec,
oui.
Qui est un groupe d'entraide, en fait, pour les hommes, pour les inciter à parler. Toi, c'est quelque chose que tu fais en chanson et dans tes livres, mais reste que c'est une problématique, là. Les gars parlent pas.
Les gars parlent pas, puis oui, moi, je le fais dans mes livres, je le fais en chanson, ce qui m'aide beaucoup, mais quand j'ai eu des périodes difficiles, je me suis rendu compte que moi non plus, je parlais pas. Quand j'ai eu des bouts de tough, là, je me suis isolé. J'ai pas appelé de chum. J'avais pas envie de parler de mes choses difficiles, puis ça n'a pas de sens. Il faut qu'on parle un peu plus. Puis tu vois, Hommes Québec est un organisme qui a été créé il y a 30 ans par le psychiatre Guy Corneau. justement pour venir en aide aux hommes et, qui ont de la difficulté à partir. C'est des groupes de discussion partout à travers le Québec qui sont en présentiel et qui sont gratuits. Parce qu'un psychologue, ça coûte cher. Hein? On s'entend que c'est du 125-150 piastres de l'heure, puis c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Donc, les hommes qui ont envie de discuter entre hommes, dans des groupes inclusifs d'hommes, peuvent aller au hommequebec.ca, je crois. Et il y a des groupes, il y a aussi des groupes en virtuel, les jeudis soirs, où les hommes peuvent se réunir et parler sans jugement. Les gens peuvent s'exprimer comme ça. Puis je pense qu'on en a besoin de choses comme ça. Donc, j'invite les hommes qui vivent des difficultés à aller s'informer là-dessus. Si des fois, c'est juste de parler, ça fait du bien, là, tu sais, de jaser des fois.
Et c'était important pour toi de te joindre à cette campagne-là?
Oui, c'est drôle parce qu'on en avait parlé l'année passée, puis j'étais pas prêt. J'étais pas à une bonne place dans ma vie. J'avais comme refusé l'année passée. Puis je me dis, Colin, je pense que non, là, cette année, j'ai besoin de prendre cette cause-là puis d'en parler. Donc, c'est avec grand plaisir que je me suis associé comme un des porte-parole. C'est le 30e anniversaire cette année. Puis tu vois, j'ai un gars dans mon entourage qui a perdu un de ses frères. Récemment, un petit garçon que je connaissais bien qui était plus jeune. Puis il m'a écrit, m'a texté. Tu sais, des fois, c'est juste un petit signal d'alarme. Il dit, ah, comment ça va? Tu sais, il me posait des questions sur que. Il m'a écrit, tu sais, pour me dire, ah, félicitations pour ça, mais il m'écrit pas souvent. J'ai juste fait, hey, puis toi, comment ça va? Tu sais, ouf, tu sais, ces temps-ci, c'est pas facile. J'aurais pu faire, en tout cas, ben lâche pas, hein. Puis j'ai dit, ah, non, c'est pas facile. C'est quoi, t'as encore un peu de difficulté avec le décès de ton frère? Tu sais, il dit, je vais t'avouer, c'est pas facile. Puis il dit, en plus, je viens de me séparer de ma femme, tu sais, puis de ma conjointe. Je fais, oh, OK, si je posais pas la question, si je diguais pas un peu plus loin, je le
ça serait
pas.
Là, puis lui, ça restait dans ses là. Affaires.
Puis ouais. Tu sais pas ce qui peut arriver après. Non. Fait que j'ai fait, tu sais, c'est une des fois où j'ai fait, hey, as-tu entendu parler d'Homme Québec? Non, je connais pas ça. Puis je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas en moyen non plus. Là, fait que j'ai dit, va voir ça. C'est des groupes que tu peux jauger. J'ai dit, avec tout ce que tu as vécu, là, une séparation, tu as perdu ton frère, tout ça, tu peux pas garder ça en dedans. J'ai dit, as-tu quelqu'un à qui tu jauges, juste un chum? Non, j'ai dit, j'ai pas vraiment parlé à personne. C'est impossible. Tout ce que tu gardes en dedans finit par te gruger, par te créer du stress. Il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est pour ça que. Puis là, quand j'ai envoyé le lien pour Homme Québec, il a fait, ah, merci beaucoup. En tout cas, je vais regarder ça. Je sais pas s'il est allé.
Non.
Mais tu vois ça.
Il y a un pas de fait, en tout cas. Ouais.
Exact. T'sais. Fait que. Je pense qu'il faut être à l'écoute des gens. C'est bien de parler, oui, mais il faut aussi être à l'écoute des autres aussi, c'est important.
C'est une grosse tournée l'année prochaine, c'est 52 dates.
52 dates.
As-tu hâte?
Ah, mais hein, écoute, c'est la plus grosse tournée de ma carrière. Dans le temps de T'es ma femme, t'es la plus belle, l'album, mon troisième album, j'avais fait une grosse tournée d'une centaine de shows sur peut-être un 2 ans et demi. Mais là, c'est 52 dates de février à juin. C'est 3 à 4 dates par semaine. Puis à travers tout ça, j'ai des shows latinos, j'ai d'autres conférences, j'ai plein d'engagements. Fait que je vais être sur la route énormément, mais moi, j'aime ça. J'aime le monde. J'aime les gens, j'aime parler avec eux autres, j'aime les rencontrer. Il y a des artistes qui aiment moins ça. Il y a des artistes qui aiment faire leur art, mais leur art dépend que les gens viennent leur voir. Puis pour eux autres, ça, c'est un mal nécessaire. T'sais, ils sont au restaurant ou à quelque part, ils ne veulent pas se faire déranger. Moi, j'aime le monde. Je veux parler au monde, je veux vous voir, je vous aime. Venez me voir, ça serait le 4 date déjà.
5 avril.
Le 5 avril. Venez me voir. Moi, je vis que pour ça, puis plus je vieillis, plus je m'en rends compte que le contact humain, le fait de parler, tu sais, comme moi, mettons une entrevue là, où la promo, il y a des artistes, ah, il faut que je fasse de la promo. Moi, je m'en viens pas faire de la promo. M'en viens voir mon ami Luc. Tu comprends? Je m'en viens jaser avec toi, j'ai du fun. On est au bouffe du fer, on va manger une assiette de pêcheur dans quelques minutes.
C'est rendu que les artistes savent ce qu'ils mangent.
Ben, moi, écoute, j'ai hâte de venir ici. Je prends toujours l'assiette du pêcheur. Fait que, tu sais, moi, je vois ça comme tout ce qu'on fait, c'est des prétextes à avoir des contacts humains. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que le contact humain. Fait que quand je m'en vais sur la route, moi, c'est pour ça que je me lève tous les matins et je travaille 8, 10, 12 heures par jour. C'est pour aller voir le monde. Fait que là, de faire 52 dates, 20 ans de carrière, d'aller chanter mes chansons, parler des thèmes de mes deux livres, pour moi, c'est le bonheur total.
Étienne, merci d'avoir été là.
C'est un grand plaisir. Puis j'ai déjà hâte à mon prochain livre, projet, album pour revenir l'année prochaine.
J'ai invité les gens à se procurer ton livre Vivre, aimer, souffrir et recommencer.
Oui.
Qui est disponible sur le web et un peu partout.
Un peu partout en librairie, magasin, Jean Coutu et au etiennedrapeau.ca. Tous mes albums, mes livres, c'est moi qui reçois les commandes, qui vous les dédicace et qui vous les envoie directement à la maison.
Merci encore une fois.
Merci à toi.